jeté, paquet encombrant, sur les genoux de monsieur. Que fait-il là? Elle l'a laissé dans le salon. Comment est-il arrivé jusqu'ici, en bas des marches? Assise dans l'escalier, elle souffle et reprend ses esprits. Lui aussi semble étonné, ahuri même de sa réaction disproportionnée. Elle ne s'attendait pas. Monsieur aurait dû sonner, appeler. Elle serait venue tout de suite. Des draps posés sur les jambes du maître et de ceux qui ont dégringolé en grande partie à terre montent puissant le parfum musqué de madame. L'espace d'un instant, ils sont trois dans ce hall. Ils se taisent, se toisent. Elle se redresse, ramasse les draps froissés au sol, ceux qui couvrent les cuisses du vieux. Dans ses bras frêles, le paquet est encombrant. Elle s'excuse, passe devant le fauteuil pour gagner la buanderie. Il la suit comme il peut, en roulant.
Je me souviens, avant, je voulais voyager. Je rêvais, quand j'avais des rêves, de partir loin, de voir du pays, comme on disait. Les marins, les soldats, les aventuriers, c'était des héros. Ils ne savent pas leur bonheur. Moi non plus, en fait.
Le voyage a été pénible. Le tortillard qui l'a conduite jusqu'à Ifto n'a cessé de s'arrêter. Elle n'aurait jamais pensé qu'il existait autant de gares entre Saint-Lazare et ce coin de Normandie où elle a fini par arriver. Elle a quitté sans regret ses compagnons. Elle s'est rendue compte, avec une certaine honte, qu'elle avait eu du mal à supporter leur présence encombrante. Une grosse dame qui a passé son temps à rouspéter et un homme très rustre qui se mouchait à intervalles réguliers dans la vaste manche bleue de sa blouse. Heureusement, les trois autres passagers se sont montrés discrets et silencieux. Ils sont tous descendus aux alentours de Bolbec. Le nez collé au carreau, elle a regardé défiler le bocage normand, trompant ainsi son ennui et la légère inquiétude qui lui serrait le ventre. Elle laisse Blaise seul, ou presque, pour la première fois depuis des années. Elle craint aussi de ne pas se montrer à la hauteur. Sera-t-elle bonne convive? Elle en doute. Ce temps passé en recluse a forcément modifié en profondeur son caractère. Le bonheur, elle l'a possédé, autrefois. Le destin ne lui a pas rendu les choses faciles. Pourtant, quand Irène, qu'elle connaît depuis l'enfance, lui a proposé de se joindre à eux, elle en a été ravie. Irène et son mari Bruno sont de gentilles personnes. Jamais Alexandrine ne les a perdues de vue, malgré les aléas de l'existence. Irène est une amie fidèle. Elle l'a toujours soutenue, entourée. Tant d'autres avaient cessé de donner des nouvelles après le retour de Blaise. Blessée, bien sûr, Alexandrine l'avait aussi compris. Si elle n'y était pas obligée, aurait-elle l'envie ou la force de se confronter au naufrage que représente son mari? Il est, malgré lui, l'image vivante de cette guerre où chacun a perdu un parent. Entre ceux qui ne voulaient plus en entendre parler et ceux qui ne trouvaient rien de réconfortant à dire, il n'en était pas resté beaucoup. Irène avait tenu bon. Plus jeune, elle n'était pourtant pas les meilleures amies, loin de là. Irène était la fille d'un collègue du père d'Alexandrine. Les deux enfants avaient été forcés de se côtoyer. Des années plus tard, elle s'était retrouvée voisine de banc à l'étude, élève dans le même lycée. Irène avait aussitôt reconnu Alexandrine, leur rappelant leur jeu d'enfant. Alexandrine, de son côté, avait mis un certain temps à la remettre. La fillette Boulotte était devenue une charmante jeune fille, pétillante et populaire. Elles firent le siège ensemble au conservatoire de ce premier violon tant idéalisé. D'une certaine façon, c'était grâce à Irène qu'Alexandrine avait rencontré Blaise. Leur destin semble lié depuis presque toujours. Debout sur le quai désert de la petite gare de campagne, Alexandrine guette la voiture de son amie. Elle ne se sent pas vraiment à sa place, mais elle espère qu'une fois là-bas, personne ne le remarquera. Le vieux la suit partout. Il l'a suivie dans la buanderie où elle a déposé les draps, dans la lessiveuse de sa